bonsoir. Donc Samuel pose beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre cette nuit, si on y passe toute la nuit, d'autant plus qu'on a déjà débattu pendant 3 heures, il y en a certains qui ont assisté. Donc on m'a demandé d'intervenir ce soir avec deux casquettes différentes, une casquette de maire et de vice-président d'une communauté de communes, et puis une casquette de formateur dans un institut de formation soins infirmiers, où j'ai fait une expérimentation sur des conférences citoyennes depuis, ça fait 6 ans que je fais ça avec des étudiants infirmiers. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais juste, donc on parle de démocratie, de citoyenneté, juste vous dire très rapidement mon parcours, puisqu'en fait ça participe à cette discussion-là. En 1982, j'ai commencé, donc j'étais militant associatif, puisque ça me semblait important, entre autres dans les mouvements antinucléaires. Et puis je me suis intéressé sur le Briançonnais au problème des incinérateurs aussi. Et c'est très intéressant, les incinérateurs. Et donc, il y avait deux incinérateurs pour lesquels on avait des résultats qui étaient des prélèvements qui avaient été faits par l'ancienne, enfin, par l'ARS, c'était la DRAS à l'époque. Et les résultats étaient catastrophiques sur des résultats où il y avait, noir sur blanc, inscrit des risques de cancer pour le personnel, voire la population à proximité de cet incinérateur. Donc, j'ai milité à ce sujet et ça a été très difficile d'avoir un débat sur le sujet. Ça s'était fini par un procès qu'on a gagné. Donc on a fait fermer les deux incinérateurs. Ça a été le début d'un militant associatif, mais avec toutes les difficultés que ça représente. Et puis ensuite, j'étais donc sur le village où j'habite actuellement, à Puy-Saint-André, et je suis allé voir le maire, parce qu'à partir des déchets, on tire sur une ficelle, et puis il y a beaucoup de choses qui viennent, parce que c'est l'énergie, et puis etc., etc., et c'est toute la vie politique. Donc je suis allé voir le maire de l'époque, et je m'intéressais beaucoup à une expérience qui s'appelait Phébus à l'époque. C'était les premiers branchements de centrales photovoltaïques sur le réseau, qui étaient illégales. Et la première centrale Phébus qui a été faite, c'était juste à côté de la centrale nucléaire de Cressmanville. Et donc j'ai participé à ces premiers branchements. EDF a porté plainte, évidemment, mais finalement ça s'est arrangé puisqu'ils ont accepté les premiers branchements sur le réseau. Ils ont accepté qu'on puisse en effet produire de l'électricité photovoltaïque avec une vente auprès d'EDF, mais ça a pris plusieurs années. Et donc, à la suite de ça, j'étais allé voir le maire de ma commune en disant, voilà, on est 7-8 copains, on est prêts à investir pour une centrale photovoltaïque sur la toiture de la mairie, parce qu'on pensait que c'était intéressant au niveau pédagogique pour la population de montrer qu'on pouvait faire autre chose que du nucléaire. Et malheureusement, dans le conseil municipal, il y avait un conseiller municipal qui travaillait à EDF, et donc ça ne s'est pas bien passé. Donc on était prêt à tout investir, on payait une location de la toiture de la mairie, et ça c'était en 86, de mémoire, 86. Donc ça a été un échec. Et à partir de là, je me suis dit, bon, l'associatif, ça ne donne pas le résultat que je souhaite, donc ben, je vais faire de la politique. C'est à ce moment-là que je suis rentré donc, en politique à cette période-là. Le temps a passé, entre-temps, et puis finalement, ben, je me suis présenté comme maire, j'ai été élu maire il y a 3 ans. Et là, toutes ces histoires de citoyenneté, de démocratie, j'étais avec une équipe qui était très motivée à ce sujet. Donc ça nous a beaucoup posé question. On s'est dit comment avancer sur ce sujet, comment intéresser les populations aux choix politiques de la commune. Donc la première proposition qu'on a faite, c'était de faire un questionnaire dans les 2 premiers mois du mandat auprès de tous les habitants. Ce n'était pas un questionnaire par foyer, c'était un questionnaire par personne, c'est-à-dire les enfants, comme les hommes, comme les femmes, répondaient au questionnaire pour savoir ce qu'ils voulaient voir développer sur leur commune. Donc on a fait cette opération qui était intéressante parce qu'on avait senti un peu mieux cette population. On avait appris à travers le questionnaire les raisons pour lesquelles ils étaient installés sur cette commune et puis ce qu'ils voulaient voir se développer sur la commune. Et puis ensuite, on avait un certain nombre de projets, et entre autres sur l'énergie, parce que c'est un sujet auquel je suis très très sensible, parce que j'ai toujours considéré que l'énergie, comme l'eau, ça doit être un service public, ça doit être un service local, ça doit être un service auprès de la population. Et donc, on a proposé à la population de créer une coopérative de production énergétique. Donc, il y a eu plusieurs réunions. Les gens ont répondu présents, ce qui était bien, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est difficile de faire venir les habitants en réunion publique. Et on a fait une étude juridique et financière. Et la France, c'est très compliqué. Ce n'est pas le cas de l'Autriche, comme vous avez vu tout à l'heure, avec leur centrale nucléaire. Et en France, pour arriver à trouver une structure juridique qui soit légale et qui puisse permettre de faire cette opération, c'est pas facile. D'autant plus qu'on souhaitait que la partie publique garde la maîtrise de ce projet, c'est-à-dire les 51% des parts. Ce n'est pas le cas dans les SCOP, dans les SIC, etc., c'est 20%. Et donc on est parti sur une SEM, un truc assez classique, mais voilà. Donc la commune est majoritaire de cette société qui existe, parce qu'en fait on a mis un an pour la créer, et donc elle existe depuis le mois de janvier 2011. Donc la commune majoritaire de 51% de ces sociétés, 31 familles nous ont suivis, donc sont actionnaires de la société. On a mis des actions très basses, à hauteur de 300 euros pour que tout le monde puisse être actionnaire. Donc il y a 31 familles qui nous ont suivis dans cette aventure. Et puis on a été rejoint par le DSB, qui est un producteur et distributeur d'énergie sur Briançon et Saint-Martin-de-Perrières. Donc le DSB a pris 33% des parts, sachant que le DSB avait une expertise qui nous intéressait, une expertise hydroélectrique. Donc eux se sont rapprochés de nous. Et puis on a été en contact aussi avec Solira. Solira, qui est un consortium qui réunit la NEF, certains sans doute connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de connaître. C'est une banque alternative, NEF. Donc il y a cette banque alternative avec ESPUL, c'est la plus grosse association de conseil en énergie photovoltaïque, et Indigo, un bureau d'études aussi qui fait du photovoltaïque. Du coup, on avait une expertise hydraulique, une expertise photovoltaïque, et on est parti tous ensemble sur cette affaire. Et là, on a commencé à installer une première centrale photovoltaïque sur la toiture de l'ancienne mairie, payé donc grâce aux fonds récoltés auprès des familles de la mairie et des deux autres actionnaires. Une deuxième centrale, ça a été installée fin juin, début juillet. Une troisième centrale qui vient d'être installée là cette semaine. Donc on a trois centrales photovoltaïques qui sont sur les toitures du bâtiment public de la commune. Et puis on a une douzaine de projets en cours. Des projets qui sont un peu innovants parce que ça s'est fait, mais ce n'est pas très fréquent en France. Il y a quelques expériences anciennes en turbinage d'eau potable. C'est-à-dire qu'on va, là, on a une étude qui est terminée. On attend le passage à l'ARS qui ne va pas être simple. Donc on va turbiner l'eau potable de la ville de Briançon. Donc c'est la petite commune de Puy-Saint-André qui va aller, grâce à ses habitants, turbiner l'eau potable de la ville de Briançon juste à côté. Donc ça c'est en cours, on attend juste la validation de l'ARS. Et puis on a le turbinage de la commune de Puy-Saint-André aussi qui est prévu en eau potable, sachant que en ce qui concerne la SEM, il y a plusieurs choses déjà dans les statuts. C'est d'une part, aucune centrale photovoltaïque en site propre ou en site agricole, ça ne sera qu'en toiture, ça c'est la première chose. Et en ce qui concerne le turbinage de l'eau, on a privilégié le turbinage de l'eau potable et de l'eau usée. Donc tout le réseau de usées se turbine, ça se fait en Suisse, ça se fait en Autriche sans problème. Il y en a à peu près une vingtaine de centrales de turbinage d'eau usée, en turbinant de la merde, vous faites de l'argent. Donc là, ça fait partie des projets qu'on a en tête pour l'avenir, sachant qu'il y a des problèmes techniques, c'est pas simple, hein, c'est des dossiers qui ne sont pas faciles à monter.
C'est quoi le turbinage en fait ?
C'est-à-dire qu'on met une turbine Pelton, une turbine, sur le réseau. Donc quand nous, on a la chance dans les Hautes-Alpes, d'avoir du dénivelé. Donc, et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on parlait de mégawatts cet après-midi, c'est un bouquet. Mégawatts propose en effet des énergies alternatives. Il n'y a pas une énergie alternative pour tout le monde. En fonction du lieu où on se trouve, des fois c'est l'éolien, des fois c'est l'hydraulique, des fois c'est la biomasse, des fois c'est le solaire. Et justement, la première chose, évidemment, c'est de réfléchir sur le site sur lequel on se trouve, quelle est l'énergie la plus adaptée. Ben, nous, on a 300 mètres de chute sur nos réseaux, et c'est le cas dans tout le nord des Hautes-Alpes. Donc déjà, cette chute, elle est importante. Et puis après, il y a du liquide, ben, c'est soit de l'eau potable, soit de l'eau usée. Donc c'est à partir de là qu'on essaie de trouver une source d'énergie. Donc nous, ce qu'on favorise, en effet, c'est le turbinage de l'eau potable ou usée. On met une turbine dans les canalisations, avec des systèmes de sécurité évidemment pour ne pas être au contact de l'eau potable. Et à partir du moment où vous avez une chute, vous faites tourner la turbine et à ce moment-là vous produisez de l'électricité. Même chose sur l'eau usée. Donc, par contre, il faut un réseau qui soit suffisamment costaud pour supporter la chute. Donc dans les réseaux d'eau potable, vous enlevez les brises-charges. Parce que les brises-charges, en fait, c'est pour limiter la chute, limiter la pression sur le réseau. Alors que nous, c'est ce qu'on souhaite, de la pression. Donc à la place des brises-charges, vous mettez une turbine Pelton qui sert de brise-charge et qui produit de l'énergie que vous vendez à EDF. Voilà. Donc là, aujourd'hui, d'ores et déjà, la commune produit ce qu'elle consomme en ce qui concerne les bâtiments publics et l'éclairage public. Ça y est, on produit ce que la commune consomme à ce niveau-là. Et on espère bien, après, continuer cette aventure avec les habitants, sachant que là, eh bien, on a dépensé déjà tout le capital social, évidemment, avec les centrales qu'on a installées. On a des gros projets, on doit installer une centrale photovoltaïque sur la toiture du gymnase qui est au lycée de Briançon. J'ai rendez-vous avec le directeur de l'hôpital de Briançon pour installer une centrale photovoltaïque sur la toiture terrasse de l'hôpital de Briançon, et on en a à peu près comme ça une quinzaine de projets. Donc à partir du mois de mars-avril, on va ouvrir le capital social auprès des particuliers et auprès des collectivités. Donc j'ai sollicité les 12 maires de la communauté de communes pour leur dire, si vous voulez participer, vous pouvez à la hauteur que vous souhaitez, pour que l'énergie soit publique, citoyenne et locale, et renouvelable évidemment. Donc c'est un des objectifs qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est un exemple sur la commune de Puy-Saint-André, sachant qu'on était quand même sur un terreau favorable, parce que ça fait 25 ans que je travaille sur l'énergie sur ma commune. Puis Saint-André est la troisième commune de France en solaire thermique. Donc déjà, il y avait une sensibilité de la population. Il y a un peu plus d'un mètre carré de capteurs thermiques sur les toitures du village par habitant. Donc il y avait déjà une sensibilité sur le sujet, sur laquelle on s'est encore plus appuyé pour essayer de développer le principe. Et puis, donc je suis aussi vice-président de la communauté de communes. Et là, c'est pareil, je suis entouré d'élus qui ne sont pas nécessairement sensibilisés au problème de l'énergie. Donc il me fallait trouver un moyen de faire avancer les choses, sachant qu'on est parti sur le principe de négawatt, c'est-à-dire que produire de l'énergie, c'est bien joli, mais si c'est pour en consommer encore plus, c'est absurde, même si c'est de l'énergie renouvelable. Donc le principe de négawatt auquel nous, les écolos, on est très attachés, c'est d'une part la sobriété, d'autre part l'efficacité, et ensuite la production énergétique. Mais avec des élus plus ou moins, plutôt certains loin que moi, de moi en tout cas, ce que je me voyais mal les embarquer dans de la sobriété énergétique parce qu'ils n'y étaient pas sensibles. Donc j'ai fait installer là encore une grosse centrale photovoltaïque sur la centrale d'épuration de Briançon. Donc cette centrale produit, je ne sais plus exactement combien d'énergie, mais je sais par contre qu'elle génère 45 000 euros de bénéfices par an, donc c'est quand même pas rien. Ces 45 000 euros, j'ai négocié avec le président de la communauté de communes pour que ces 45 000 euros ne retournent pas dans le budget général. Je lui ai demandé s'il était possible que ces 45 000 euros retournent dans le budget de la commission que je préside pour faire de l'isolation des bâtiments. Pour travailler sur la sobriété énergétique. Il a dit oui, ce qui veut dire que là, tous les ans, j'ai 45 000 euros à ma disposition pour isoler les crèches, isoler la MJC, isoler le centre d'enseignement artistique, le théâtre du Briançonnais et le siège de la communauté de communes. Donc tous les ans, je sais que j'ai ces 45 000 euros pour petit à petit rentrer dans un cercle vertueux et travailler sur la sobriété énergétique, qui est le pilier le plus important d'après Négawatt, et c'est ce que je crois, pour avancer au niveau des problématiques énergétiques. Voilà, rapidement brossé. Alors le deuxième aspect, la deuxième casquette, donc je vous parlais des conférences citoyennes. Je pense, et on en a pas mal parlé cet après-midi, je pense que la population ne s'intéresse pas assez aux problèmes de la science. J'ai affaire à des étudiants infirmiers, donc en effet, bon, qui ont un niveau bas quand ils arrivent, mais on se rend compte très vite que finalement, les médias, ils ne connaissent pas trop, ils s'informent assez peu, et donc c'est un combat au départ d'arriver à les persuader de s'informer, à leur montrer que s'ils lisent un petit peu les médias, ils vont se rendre compte que tous les problèmes de société, ils sont traités quand même, et donc je les fais travailler à partir d'articles du Monde en particulier, et donc m'est venue l'idée de travailler sur ces conférences citoyennes pour les sensibiliser aux gros problèmes, aux grands problèmes de société. Donc le principe, on en parlait cet après-midi, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça existe beaucoup dans les pays nordiques, c'est de faire participer aux décisions les citoyens et leur donner au préalable la possibilité justement d'y participer. Donc les citoyens sont tirés au sort, ça peut être sur un annuaire téléphonique, sur un petit village, paf, vous tirez au sort et vous tombez sur un certain nombre de citoyens. Ensuite, ces citoyens sont mis au contact d'éléments d'information. Alors, ça peut être auprès d'experts, ça peut être auprès de scientifiques, ça peut être auprès de médias, ça peut être auprès de n'importe quel opérateur, etc. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai transféré moi à l'IFSI, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont choisi des thèmes. Là, cette année, ils ont choisi les nanotechnologies, ils ont choisi la légalisation des drogues douces, ils ont choisi l'euthanasie active, ils ont choisi les vaccinations et ils ont choisi la ligne très haute tension qui traverse le département des Hautes-Alpes. Donc c'est les 5 thèmes qu'ils ont choisis. J'en avais proposé 10, ils en ont pris quelques-uns, mais la ligne haute tension, je n'avais pas proposé, ils l'ont choisi. Donc à partir de là, je les aide, moi, à essayer de trouver de la documentation, sachant qu'il faut qu'ils soient méfiants, parce que sur la documentation, il y a de tout. Il y a des choses qui sont plus ou moins bonne qualité. Je les oriente aussi vers des interlocuteurs potentiels auprès desquels ils peuvent avoir des éléments. Donc ils travaillent plusieurs jours là-dessus. Une fois qu'ils ont réuni un maximum d'informations, qu'ils arrivent à bien sentir la nature du débat dans la société à ce sujet, ils choisissent des personnages. Il y a deux étudiants pour, deux étudiants contre. Au niveau des nanotechnologies, la question c'est faut-il mettre en œuvre le principe de précaution concernant les nanotechnologies? Donc il y en a deux oui, il y en a deux non. Ils choisissent un personnage existant. Ça peut être le ministre de la Santé, ça peut être, il y avait eu l'année dernière sur les OGM, il y avait la directrice de Monsanto, je peux vous assurer, elle est arrivée en tailleur, avec des stylos Monsanto qu'elle a distribués dans la population. En gros, il joue vraiment le jeu de cette affaire, donc il représente un personnage. D'ailleurs, souvent, certains choisissent un personnage qui est à l'encontre de leur position personnelle. Et c'est très intéressant, parce que ça leur permet aussi de voir quelle est la manipulation lors des débats, comment on construit un argumentaire, comment on construit un contre-argumentaire. Donc ils choisissent ces personnages, et le jour des conférences citoyennes, ça a lieu le 7 et 8 novembre, en fond de salle, il y a une grande tribune avec une caméra, il y a tous les étudiants qui sont dans la salle, et puis les experts, entre guillemets, qui sont sur la tribune, les deux pour, les deux contre, et au milieu un animateur, comme à la télé, pareil. L'animateur lance le débat, les experts s'allument, puisque je peux vous assurer que c'est musclé, et des fois c'est très très musclé. Et à l'issue, donc ça dure à peu près, au bout de 25, 30, 40 minutes, on sent qu'on a à peu près fait le tour du sujet. La population pose les questions aux experts, les experts y répondent, et à l'issue de ça, la population vote sur la question qui était posée. Donc j'ai adapté le système des conférences citoyennes auprès des étudiants, et je ne savais pas au départ ce que ça allait donner. Et j'ai été très 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 surpris, d'une part de la qualité de leur entre guillemets expertise au bout de 18 heures à peu près de travaux en groupe. Ils arrivent à vraiment rentrer dans le fond du problème, ils arrivent à avoir une expertise qui est étonnante. Quand on voit les débats, il n'y a pas à rougir de ce qu'on voit à la télé. Je peux vous assurer que moi, j'ai trouvé que c'était souvent d'un meilleur niveau que des débats télévisés. Donc déjà, c'était une grande surprise. Eux, ça leur permet de s'exprimer en public, de découvrir des problèmes de société, de travailler l'argumentation, la contre-argumentation, la manipulation aussi, de savoir qu'il faut être méfiant sur les documents qu'on lit, c'est quoi les origines des expertises qui sont mises en avant, etc., etc. De découvrir aussi ce que c'est que le principe de précaution, de connaître aussi tous les organismes sociaux qui s'occupent de ces problèmes. Voilà. Donc voilà, en gros, comment ça se passe. C'est des expériences, je pense, intéressantes qu'il faudrait multiplier, même auprès dans une mairie ou auprès d'un territoire, d'une communauté. Je pense que ça serait des sujets qui seraient intéressants à développer, enfin des méthodes qui seraient intéressantes à développer. Voilà.
Il y a quand même un problème financier, il me semble. Dans un patelin comme Chavestin, il y a 3000 mètres carrés de photovoltaïque qui sont montés. Alors l'EDF paie 10 fois le prix de photovoltaïque que suivant c'était 0,055 la consommation et ils payent 0,59, donc plus de 10 fois le prix. Bon, ça, c'est l'usager qui va payer ce truc-là. Alors, quand même, et je peux vous dire que le photovoltaïque, bon, on est 314 jours de soleil, c'est normal, mais c'est quand même, dans un pays de 200 habitants, il y a déjà 3000 mètres carrés. Parce que ça a été fait par des vendeurs qui sont arrivés. Vous faites le terrassement du bâtiment. Pendant 20 ans, on prend tout le pognon et après 20 ans, c'est tout à vous. Il y en a déjà 3 qui se sont fait. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai mis 24 mètres carrés dessus, j'ai payé 20 000 euros. Mais je paie, on me paie 10 fois plus que ce que je consomme.
Je voulais revenir sur l'histoire du tarif EDF, enfin du tarif payé, du tarif électrique. Donc il y a eu un tarif attractif à un moment donné pour lancer la filière. Et moi je me pose la question, cette histoire de moratoire, est-ce que ce n'est pas une action du lobby EDF pour EDF et tous les sous-traitants, hein, parce que RTE c'est quand même lié à EDF quand même. Et pour casser justement toute cette filière et puis arrêter là, ce qui est des investissements dans le domaine pour justement faire valoir encore la production électrique en disant on ne pourra pas s'en sortir si on n'a pas du nucléaire. De lobby, quoi, enfin d'action de lobby.
Je pense que le tarif à 60, pour moi, c'était une erreur parce que il suffisait de le mettre à 30 centimes, ça lançait la filière. De monter à 60 et puis boum, après de redescendre, ça a cassé la filière. Et c'est un sacré problème. S'ils étaient montés à 30, puis ils étaient restés à 30. Parce que le problème, c'est que les entreprises, elles ont besoin de visibilité sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Là, de jouer au yo-yo, là, plus personne n'y comprend plus rien. Et là, c'est dramatique parce que le photovoltaïque, ça vaut le coup, c'est encore intéressant, mais le public pense que c'est mort maintenant. Donc ils n'ont plus aucune commande. C'est la panique totale, là, et ça licencie à tour de bras. Et je trouve que c'est dramatique. Alors après, qu'est-ce qui s'est joué derrière? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la stratégie de la part d'EDF? Ça, moi, je suis incapable de le dire. J'en sais rien, je sais pas.
Je me suis toujours posé la question, pourquoi est limité à 4000 kW par an? Donc à peu près 20 mètres carrés de panneaux, alors qu'il y a des toits qui pourraient en recevoir davantage, ou des toits qui en recevoir moins, mais les entreprises sont parties sur ce créneau-là, alors qu'il aurait suffi d'un tarif dégressif. Les 2000 premiers, bon, au plus fort, et puis après on fait un dégressif, et comme ça les gens ont un choix d'investissement, alors que là il n'y avait même pas de choix.
Oui, je pense que ça a été très mal pensé, et puis aujourd'hui on le paye. Hein.
On a parlé de la relativité. Moi, je suis très mauvais en maths. Et on a parlé aussi des consommations électriques. On a vu que l'EDF rachetait l'électricité très chère à des particuliers ou à des collectivités. Et je ne comprends pas la logique. Parce que si l'EDF paye peut-être à la base bas, ou ça lui revient à un coût de, je sais pas, très bas l'électricité, et qu'elle paye 6 fois plus cher, je vais entendre tout à l'heure, soit l'EDF est généreuse, ceux qui m'étonneraient fort, ou soit ils sont aussi mauvais que moi en arithmétique. Donc j'ai du mal à saisir la logique de racheter quelque chose de plus cher alors qu'on le paye déjà moins cher. Et à propos de l'ignorance de tout le monde, ça va peut-être nous rassurer, il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui disait la formule suivante, nous sommes tous des ignorants, il ne faut pas l'oublier, mais nous n'ignorons pas les mêmes choses. Et je pense que cette formule nous ramène à une juste perception des choses, c'est qu'il faut rester humble face aux connaissances et que des gens possèdent des connaissances qu'on n'a pas, mais nous on possède aussi des connaissances qu'ils n'ont pas. D'où l'exemple du physicien et du footballeur. Je trouve que ce sont des gens compétents dans leur domaine et qui illustrent très bien la théorie d'Alain qui disait nous sommes tous des ignorants et nous n'irons pas les mêmes choses. Je veux quand même la réponse pour les DM, s'il vous plaît.
La réponse, là, voilà, c'est que pour former les gens et pour informer les gens, il faut être précis et juste. Et là, en l'occurrence, on ne l'a pas été. Dans le sens où ce n'est pas EDF qui rachète à 30 ou à 60, ou qui rachetait à 60 centimes. C'est que l'État compense. Et l'État, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'EDF rachète, ça doit être 11 centimes et revend 11 centimes, et le différentiel, c'est l'État. D'accord ? Et c'était donc une subvention, enfin oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que le prix de rachat, c'est aussi une forme de subvention pour booster la filière et pour la développer. Mais sachant que tout est subventionné d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, le nucléaire est très fortement subventionné. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, ils ont fait le choix de booster la filière, donc c'est pas EDF qui rachète la totalité, c'était l'État.
Tu as des exemples à l'étranger ? Merci.
Le prix de rachat est moindre en Allemagne, en Autriche. Le prix de rachat est moindre qu'en France. Et pour autant, ils en font beaucoup plus. Je sais plus si c'est cet après-midi ou tout à l'heure, je ne sais plus. Je disais, le Vorarlberg donc, a fait le choix, comme vous l'avez vu, de ne pas de nucléaire. En 2015, ils sont autonomes en énergie, sans nucléaire, et sans faire appel à d'autres pays. Par contre, ils ont 40 ans de travail sur toutes les filières, que ce soit sur l'éolien, pas trop, mais beaucoup sur la biomasse, beaucoup sur le solaire et beaucoup sur l'hydro. Mais c'est très impressionnant. Si vous avez la chance d'aller au Vorarlberg, c'est donc le Land qui est totalement à l'ouest de l'Autriche. Et entre autres, il y a un endroit à Dornbirn, c'est l'Institut de l'énergie. Là, vous allez voir comment l'Autriche, en tout cas le Vorarlberg, a mis en œuvre. Parce qu'en fait, après la guerre, l'Autriche a été rayée de la carte et ils ont mis un gros paquet de fric pour reconstruire l'Autriche. Sauf qu'ils n'ont pas fait n'importe comment. Ils ont mis un gros paquet de fric, mais sous forme de prêt et non de subvention. Donc l'Autriche, en tout cas le Vorarlberg, s'est reconstruit avec cette aide à la pierre, qui était sous forme de prêt. Donc ils ont reconstruit, mais ils ont remboursé les prêts, parce que les Autrichiens, ils sont carrés. Et donc, depuis 1945, il y a ce fonds permanent qui existe. Sauf qu'après, ils ont octroyé les prêts, mais sous condition. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des bâtiments dans un premier temps basse consommation pour avoir ce prêt. Et ce prêt, c'est taux zéro ou quasiment zéro. Et c'est des prêts importants parce que là, j'ai vu, moi, des particuliers, ils n'ont même pas la nécessité d'aller à la banque. Hein. Ils ont 150 000 euros à taux zéro pour construire leur baraque. Donc, oui, je disais, au départ, ils ont mis en BBC, basse consommation. Mais après, ils sont passés la marche supérieure. En 1995, ce n'était pas un bâtiment basse consommation, c'était un bâtiment passif. Et puis après, ils sont passés encore à la marche supérieure, ces bâtiments bio et passif. Et là, tout le monde va. Avec les taux qu'ils ont de prêt, ils y vont. Donc et donc, ils ont des courbes, j'ai vu toutes les courbes, moi, de descente énergétique du Vorarlberg, et de montée de production énergétique alternative, et donc le croisement c'est 2015. En 2015, ça y est, terminé, ils sont au top.